Alors, de nouveau, bonjour à chacun.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va commencer le livre des Proverbes. Ça nous prendra deux sessions, une aujourd'hui et une demain matin. Alors, je vais commencer par donner des informations sur les auteurs, un peu la structure et les divisions majeures de ce livre des Proverbes.
D'abord, il y a une introduction avec un thème de base, et c'est le chapitre 1er, les versets 1 à 7. On voit qu'il n'y a pas qu'un auteur, mais le principal auteur est Salomon. Et dans le premier chapitre, on voit que c'est Salomon qui a commencé ce livre des
Proverbes.
Ensuite, il y a toute une section qu'on va voir ce matin. C'est un appel à la sagesse. C'est le chapitre 1, verset 8, au chapitre 9. C'est pas vraiment des proverbes, comme on verra plus loin. Le Salomon a écrit sur certains sujets. On verra comme les mauvaises compagnies, comment acquérir la sagesse. On va examiner ça ce matin. Et puis ensuite vient vraiment les proverbes de Salomon. C'est le chapitre 10 jusqu'au chapitre 24. Et là, il y a une partie de tous les proverbes de Salomon. Salomon en a écrit plusieurs milliers, en tout cas 3000. Mais dans cette partie, on n'a que quelques centaines. Il y a aussi toute une section qui sont les nouveaux proverbes de Salomon. Mais c'est des proverbes qui ont été rassemblés, collectionnés par le roi
Ézéchias.
Il a rassemblé plusieurs de ces proverbes pour les inscrire dans ce livre. Donc on voit que le livre des proverbes n'a pas été écrit en une fois. Mais il a été écrit sur plusieurs centaines d'années. Parce que Salomon était un des premiers rois de Juda. Ézéchias est plutôt à la fin des rois de Juda. Il y a aussi un chapitre, le chapitre 30. C'est des paroles
d'Agur.
Une personne dont on ne connaît pas grand-chose, ou rien du tout. De même, il y a un chapitre avec les paroles du roi Lemuel.
Mais c'est comme ça,
premier chapitre, c'est le début du chapitre. Et le livre des Proverbes se termine par une section qui parle de la femme vertueuse, comme on dit. Ici j'ai marqué alphabet. Alphabet de la femme admirable. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, chaque verset, la succession des versets, la lettre initiale est une lettre de l'alphabet et c'est dans l'ordre de l'alphabet. Donc nous on dirait pour notre alphabet, le premier verset commence par la lettre A. Le deuxième verset par la lettre B. Alors maintenant, on va commencer à lire le livre des Proverbes, juste l'introduction. Tu vas nous dire quel est le but de ce livre. Pourquoi Salomon a-t-il écrit? Et quel était son objectif? Dans la traduction, on va lire le chapitre 1, les versets 1 à 4.
Je vais lire le chapitre 1, les versets 1 à 4.
Wabase ebilisi ya mwa kwenza jende di da menji. Ya mwa kane, ya mwa diko sa ya kane ya samu. Ni ya mwa kwa kane, wakuko mwa ujikali. Ujikali utanta mane mwa mwa ujimu. Wakuleja sa mwa menji, mwukole wakuka anajisha maru mwa kane.
Alors c'est clairement dit que c'est le proverbe de Salomon, le roi d'Israël, le fils de
David.
Et il veut transmettre quelque chose. Ce qu'il veut transmettre, c'est la sagesse. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Alors qu'est-ce que c'est que la sagesse? Ça ne peut pas se résumer en une phrase ou en un mot. Mais il y a plusieurs termes ici qui expriment plusieurs facettes de la sagesse. C'est cette capacité d'adapter, d'appliquer la connaissance qu'on a à la vie quotidienne. Alors par exemple, il est parlé d'instruction. Ça exprime aussi l'éducation. Apprendre la sagesse, ça demande aussi de la discipline. Et ces termes nous montrent que la sagesse s'acquiert, ne s'acquiert pas automatiquement. Il faut la rechercher. Il faut la rechercher et, comment dire, elle est accessible qu'aux disciples. Que veut dire être disciple? Les disciples, c'est des personnes qui veulent suivre un maître.
Une
personne qui va les instruire. Et le disciple va rechercher l'enseignement du maître.
Parce
qu'il sait que le maître a toute une connaissance que le disciple lui-même
ne connaît pas.
Quelle est une des qualités essentielles du disciple? Pour l'expliquer, c'est plus simple des fois de prendre un verset de la Bible qui est tiré du chapitre 50 du prophète Ésaïe. Et c'est Ésaïe qui parle de lui, mais aussi du Messie, comme un serviteur qui est aussi disciple. Je
ne
sais pas si quelqu'un a trouvé le passage, les versets. Mais... chapitre 50 d'Ésaïe, les versets
4. 4
à 5. Quelle est la qualité principale du disciple? Il est parlé aussi deux fois des oreilles. Il est parlé une fois d'écouter. Donc le disciple, c'est quelqu'un qui doit savoir écouter. Il doit savoir écouter l'instruction. Il est aussi parlé d'intelligence, pour recevoir l'intelligence. L'intelligence suggère d'abord de comprendre ce qui se passe. Comprendre pour pouvoir discerner ce qui est essentiel.
Mais
aussi applicable à notre vie aujourd'hui.
Et
j'aimerais citer un verset de nouveau, mais cette fois c'est dans les Philippiens, chapitre 1. C'est le sujet d'une prière de l'apôtre Paul. Et on peut lire Philippiens 1, les versets 9 et 10.
Babale, Philippiens, chapitre 1, verset 9 et 10.
Dans la prière de l'apôtre Paul,
avant toute année, il y a mon poste de Paul.
C'est qu'avec amour, on puisse toujours se développer ou augmenter sa connaissance. Avec cette intelligence pour discerner ce qui est essentiel. C'est une qualité de la sagesse aussi indispensable. Dans cette introduction, il est aussi dire d'écouter pour recevoir des leçons de bon sens. Le bon sens, c'est un peu cette sagesse pratique. Un peu le savoir-vivre qui nous aide dans notre quotidien. Par exemple, hier, on a eu la question à propos de Salomon. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire le choix de demander la sagesse plutôt que la richesse? On
ne
va pas faire une grande étude là autour. On a simplement répondu spontanément, c'est le bon sens, l'intelligence. C'est un peu ces décisions qu'on prend naturellement. Avec un côté très pratique et très simple. On a lu que la sagesse nous donne du discernement. Il y a des fois des situations difficiles qu'il faut résoudre. Et on ne sait pas très bien comment faire face à cette situation. Et si c'est une situation difficile et délicate, on ne va pas prendre une décision comme ça. Souvent on prend des décisions sous le coup de l'émotion, sans réfléchir, on dit c'est comme ça, puis voilà. Mais on voit que le discernement, ça demande des fois du temps et de la patience. Et on voit que le discernement, c'est aussi, ça s'applique aussi aux jeunes. Parce qu'on verra que le discernement, c'est aussi utile à ceux qui manquent d'expérience. Et dans le livre des Proverbes, ceux qui manquent d'expérience sont appelés des naïfs.
Et
puis la Et puis j'ai aussi parlé de la connaissance. Mais la connaissance, c'est pas, dans le livre des Proverbes, c'est pas d'abord une connaissance intellectuelle. La connaissance de toutes les sciences humaines, tout ce qu'on nous enseigne à l'école.
Mais
c'est d'abord la connaissance de la vérité. La connaissance de Dieu. Et puis tout ça lié à la réflexion, il faut aussi savoir réfléchir. Pour ensuite faire ce qui est droit, juste, honnête. On voit que la sagesse a beaucoup de facettes.
Et
alors maintenant, on va entrer dans le chapitre, dans l'introduction, qui sont les versets 5 à 8.
Et
on peut les lire ensemble. Merci. Alors vous voyez que l'enseignement, ce chapitre, est présenté comme une transmission de génération en génération. C'est dans la famille que l'enfant reçoit premièrement l'instruction. C'est dans un encadrement où l'amour règne.
Et
qui est propice à enseigner la sagesse. On a vu au verset 8. Mon fils écoute l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. On voit que le couple des parents est très important. Pour transmettre cette éducation, et les parents ne vont pas seulement transmettre par les paroles, mais les enfants observent aussi les parents, comment ils se comportent. Donc il y a cette transmission, pas seulement par les paroles, mais aussi par ses actes. Maintenant, concernant la sagesse, il y a un verset clé. On va le trouver plus en... Il est dans un chapitre plus loin.
Mais
un verset clé va être la base de toute cette acquisition de la sagesse. Ce verset clé se trouve dans le chapitre 9 au verset 10.
Donc amené, mon chapitre 9, verset 10, comme il est écrit, Vensa wa wa bondo ke wa jimanye ja lungi nyanje pete ja lungi we
umanya wa tshila mvishumula ya nyanda
le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'éternel
Fadjilo wa menjani wa jimanya ki vichina ja wa chendelele.
Aujourd'hui on pourrait dire que l'ABC de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel.
Apa majima tambile ni ABC wa jimanya vichina ja wa chendelele.
Alors la crainte de l'éternel, la crainte de Dieu,
vichina ja nzambi,
c'est plus dans un respect ou un saint respect de Dieu. Mais la crainte de l'éternel, c'est aussi la connaissance de Dieu. Avoir un rapport personnel, proche avec lui. Et aussi vouloir être soumis à sa volonté. Et réaliser que Dieu est souverain. Donc avoir la crainte de l'éternel, c'est aussi c'est un choix. Est-ce que je vais faire tout pour rechercher une meilleure connaissance de Dieu? Beaucoup de personnes connaissent Dieu superficiellement.
Et
on peut avoir de fausses idées sur Dieu. Dieu, il est bon. Mais rechercher la connaissance de Dieu va plus loin. Et quand on connaît le Seigneur et qu'on l'aime, on a une bonne disposition pour l'écouter.
C'est
pour avoir cette attitude du disciple qui écoute, qui ouvre ses oreilles. Donc le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et dans Proverbe 2, verset 6, on a...
Oui.
Proverbe 2, verset 6, en effet, c'est l'Éternel qui donne la
sagesse.
C'est l'Éternel qui donne la sagesse. Et c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Si on a cette conviction dans son cœur, on va être prêt à augmenter en sagesse et en intelligence. Alors maintenant, on va passer au paragraphe suivant. Ou jusqu'au chapitre 9, il y aura différents sujets qui seront étudiés. Le premier, c'est les mauvaises compagnies. On peut commencer à lire le premier verset, le verset 10 du chapitre 1.
Oui.
Les jeunes sont souvent influencés par ceux qui les entourent. Quand ils sont petits, les enfants sont protégés dans la famille. Et Mais quand ils deviennent plus grands, adolescents, ils ont besoin d'avoir des amis aussi. Et ici, Salomon dit, mais faites attention, qui sont vos amis. Et les adolescents aiment beaucoup faire partie d'un groupe. Ils aiment bien être reconnus. Reconnus, acceptés. Et vont être influencés par ceux qui leur proposent, comme ici au verset 14. On voit ces jeunes qui entourent ce garçon et qui
veulent le faire.
Il faut lire le verset 14. Les amis, ils viennent avec nous. Mais tout de suite après, il dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Et alors on voit que le père lui dit mais fais attention parce qu'ils vont t'entraîner au mal. C'est vrai quand j'ai eu 4 enfants, ils ont été adolescents. C'est vrai qu'il y a toujours une période difficile pour eux. Parce qu'il y a beaucoup d'influence. Mais ce qui nous a beaucoup aidé comme parents, c'est que nos enfants avaient des groupes de jeunes aussi. Des groupes de jeunes où pouvaient rencontrer d'autres chrétiens. Et d'avoir des activités saines. Et des fois la classe faisait des sorties le samedi. Souvent il y avait les jeunes buvaient trop ou avaient différentes choses. Et nos enfants pouvaient dire, mais non, moi j'ai une autre occupation. Une autre occupation qui était beaucoup plus saine et profitable. Maintenant, on va passer au sujet suivant, l'appel de la sagesse. C'est toujours le chapitre 1,
et on va lire
les versets 20 à 23.
Mais
Alors, est-ce que la sagesse est pour tout le monde ou pour seulement quelques personnes? Pour tout le monde. La sagesse crie dans les rues. Sur les places. Dans les endroits bruyants. Elle ne se fait pas seulement connaître à une élite. On est tous concernés. On
ne
peut pas dire la sagesse, c'est pas pour moi, mais lui, il y arrivera. Et on voit que la sagesse couvre tous nos besoins fondamentaux. Quels sont les besoins fondamentaux de l'homme? Un besoin fondamental, c'est la nourriture. Mais un autre que vous avez aussi, j'imagine que vous l'avez expérimenté. On le trouve dans le dernier verset, dans le verset
33.
Quel est le mot qui peut représenter un besoin fondamental?
Donc, La paix, la sûreté. La paix. Dites-la là, les jokubibou.
Je pense que vous l'avez expérimenté.
Oui, tout le monde a dit tout le monde,
Parce qu'il y a deux ans, il n'y avait pas eu d'enseignement biblique ici, avec cette formation biblique. L'année passée, elle a eu lieu. Mais il me semble que vous vous sentiez moins en sécurité qu'aujourd'hui.
C'est vrai?
On aime la sécurité. Dans la sagesse nous dit, voilà, si vous suivez le Seigneur avec sagesse, vous serez comme en sécurité. Parce que Dieu met des fois des limites dans nos vies.
Et
si on respecte ces limites, eh bien, ça va nous préserver de tomber dans le mal. le chapitre 2 parle des bienfaits de la sagesse.
Apa tu muna bimpe bienza kuji lungenye.
Si je recherche la sagesse,
dinika nanjinke balungenye,
il y aura des retombées bienfaisantes dans ma vie.
Kuji malumi paya yepoenzeka mumoyo wanyi.
On lit les versets 1 à 5.
Patu itobala kwanga chilo kumvenso wokumpala wa chapitre mwibi jitono kuji verso mwitano.
Alors vous voyez comment le Père parle à son fils.
Si tu biwas,
si tu écoutes, si tu recherches
biwas,
alors il y aura une récompense. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Mais on veut lire les versets
9
à
11
pour voir. Oui. On voit que l'acquisition de la sagesse n'est pas automatique. L'acquisition de la sagesse, il faut la rechercher. C'est quelque chose de progressif.
C'est
pas comme un cadeau que tu reçois de Dieu. Mais c'est moi qui dois la rechercher et qui dois faire des
choses.
Donc la sagesse est un don de Dieu. Qui incite à une bonne conduite et qui protège contre les tentations. Au chapitre 3, nous voyons quelques caractéristiques du vrai disciple. Et on va lire les six premiers versets du chapitre
3.
Kazi mutima wewe utumikile mikenji yanyu bwana neye kutente kashile jilesha ja maduku ne bijimu ya moyo ne jikalala luse nelula matu wa udushua kabi umukukuzi ubisike mwishi mwede ubifune mwishi mwede Mungu neusane za kalenge nelungu ize kumesu kwa zani ni kwa bantu ene meyekoa mwishi mwede wongiso uneme yitishi ulele za mnyanda mwumaje yeye timpe ujendeki yeye bionso yeye na kumule mishile mishile yeye.
Alors on voit que la sagesse est plus qu'un manuel de
savoir-vivre.
Pour rechercher la sagesse, il n'y a pas une instruction qui dit point 1, tu fais ci, point
2, tu fais ça.
Mais elle demande, cette recherche de la sagesse demande un engagement du cœur. Et le verset 5,
c'est
un verset que j'ai dû apprendre à l'école du dimanche quand j'étais petit.
On fait
quoi de tout ton cœur à l'éternel.
Et
ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et si on fait confiance à Dieu pour le rechercher dans notre vie, Dieu nous promet qu'on aura une vie en abondance. Une vie en abondance, ce n'est pas l'abondance matérielle. Mais c'est jouir de cette liberté qu'on a dans cette relation avec Dieu. La vie en abondance est aussi décrite dans le verset 18 de
ce chapitre 3. 18.
Oui, cette sagesse sera comme un arbre de vie. Alors maintenant, la saison, maintenant en Suisse, c'est la fin de l'hiver. Et pendant l'hiver, tous les arbres ont perdu leurs
feuilles.
On croit qu'ils sont morts. Mais dès que la température augmente, la sève remonte dans les arbres. Et certains arbres sont couverts de fleurs.
Et
c'est un moment assez extraordinaire dans la nature pour nous. De voir la vie qui revient. Et ici, être un arbre de vie, on voit que c'est la vie qui revient. Et à l'époque de Pâques, on pense aussi à la résurrection du Seigneur. Mais en recherchant la sagesse, on pourra jouir de beaucoup de bénédictions. Le paragraphe suivant, le chapitre 4, concerne l'acquisition de la sagesse. On va lire les versets 1 à 7.
Je vais trouver les versets pour parler de nous, je vais demander à mon tekete.
Alors on voit ici, le chapitre commence pas par mon fils, mais mes fils. Mais on voit que cette sagesse se transmet de génération en génération. Parce que le père qui instruit son fils dit que lui-même avait eu un père qui l'avait instruit. Il dit au verset 3, j'étais un fils pour mon père. Et c'est mon père qui m'a instruit. Donc on voit l'importance des parents pour l'enseignement des enfants. Mais aussi l'expérience, mais aussi l'importance des grands-parents. Des grands-parents qui continuent à transmettre quelque chose.
Alors,
cette sagesse s'acquiert d'abord. C'est lui acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Et il y a ensuite différents versets qui décrivent les protections que ça nous donne dans notre vie. Quand on applique ces instructions. Et puis au verset, en particulier, il y a la maîtrise de soi. Qu'est-ce que ça veut dire la maîtrise de soi? On va faire un petit exercice. On va lire les versets
20 à 27.
Mais
Je vois que le temps avance, j'aurais aimé faire un petit exercice en demandant, mais... Quelles sont des parties du corps qui sont mentionnées ici? Est-ce que vous avez remarqué?
Les oreilles.
Plusieurs fois du corps.
Il
y a même les paupières.
Les lèvres.
On voit que la maîtrise de soi, ça fait intervenir tout le corps. Et toutes ces choses que je vais faire avec mes mains, où je vais aller avec mes pieds, ce que je vais écouter, tout ça, ça dépend des décisions de mon corps. À plus tard cette semaine ou la semaine prochaine, on étudiera Galates. Et on verra qu'en fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Le chapitre 5 s'occupe principalement du problème de l'adultère. C'est la sagesse appliquée au mariage et la folie de l'adultère. Il est parlé d'une femme étrangère, une tentatrice. Et pour pas tomber dans la tentation, il nous a dit, passe loin de chez elle, elle ne t'approche pas de la porte de sa maison. Parce que le prix de la fidélité est lourd à payer. Les conséquences sont très destructrices. Donc le prix de l'infidélité est lourd à payer. Il en est parlé encore plus loin, mais je vais avancer parce que l'heure avance. Mais les derniers versets de ce chapitre sont aussi pour encourager la fidélité. Et toutes les bénédictions qu'il y a à rester fidèle. Vous pouvez lire ça à la maison. Dans le chapitre 6, il y a des instructions pour ceux qui vivent un peu dans
l'insouciance.
Qui ne veut pas prendre ses responsabilités, mais qui dit, oh tant pis, ça ira.
Et
la première tentation qu'il faut éviter, c'est de se porter garant.
Je ne sais pas si
c'est une notion qu'on a ici en Afrique. C'est connu. Parce qu'on peut être ruiné, ça a divisé des familles.
bolubwa ujimo kuikala wewe muyi kujibwinka mujitapulula na sijajiku.
C'est comme si le frère Jean, le frère Alphonse avait un projet en disant il me faut tant d'argent.
Et puis
il démarre son projet.
Puis
moi je lui ai promis, si ça va mal, tu seras bien, mais si ça va mal, je paierai pour toi.
Et si le frère
Alphonse a mal préparé son projet,
et qu'il n'a
plus d'argent, les banquiers viendront prendre mon argent à moi. Donc c'est quelque chose à ne pas faire.
En tout cas,
dans nos pays, on a un voisin où
j'habite
qui a perdu beaucoup d'argent parce qu'il avait promis à son beau-fils de l'aider, enfin.
Ça divise les
familles.
Et puis
un autre danger, c'est la paresse. Alors Salomon prend un exemple de la nature. L'exemple des fourmis. Chez vous, c'est plutôt des termites.
Oui, il y a même des fourmis encore ici. Alors, je crois que tu l'ondes, bonsoir à ça.
Alors, elles travaillent, elles cherchent la nourriture, elles l'amènent dans leur maison.
Parce que c'est
une période difficile.
Elles
ont fait des réserves
dans leur.
Alors chez nous, c'est particulièrement visible. Parce qu'en été, la belle saison, les fourmis font des fourmilières, elles accumulent de la nourriture.
Et
l'hiver, quand leur habitation est couverte de neige, qui fait que tout
gèle, les
fourmis ont fait des réserves, elles
peuvent vivre tout
mais les fourmis ont beaucoup travaillé.
Il
y a un autre danger, c'est l'homme double, l'homme qui divise.
Ici
c'est mis le vaurien,
marche.
Il lance des clins d'œil, il s'exprime du
pied.
C'est des signes comme ça
pour
dit quelque chose à une personne.
Ça fait des divisions.
Et le quatrième point dans ce chapitre, c'est de nouveau l'adultère. Et il y a un avertissement au verset
27-28.
On va lire les versets 27-28 pour les conséquences. On voit ses conséquences, c'est marcher sur des charbons. Le chapitre 7 concerne aussi ce genre de relation.
C'est
Je rappelle les textes précédents concernant l'adultère.
Mwemo bwenyu vyana ka bijimalu aji ba kula ba yekotana ka bijitangela masanje.
Salomon raconte une observation qu'il a faite.
Afa Salomon yaye kuleja uyaye kwamba bwolu bijiye ka yende mune.
Il voit un jeune homme qui se promène comme ça et qui a une femme dans le quartier.
Umuna songa lume uye wende uyiwende ka jimika lenu mukashi mukamponya.
Et il décrit comment le jeune homme se fait petit à petit attirer, c'est progressif, pour tomber. C'est très bien décrit, et c'est un avertissement pour nous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est d'abord ne pas s'approcher, garder la distance.
Et
puis aussi penser aux conséquences.
Ni uyukwe langa na menjika bijibwa, bijimo kulukulonda, kunyima kwa bwalu.
Avoir la vision des conséquences, ça peut nous retenir.
Kaja kunyipamutuba kuyakutangile bijimo kulwa, kumpale bijikele wekale mwenza munye, wikana mukikande.
Et c'est ça la sagesse, connaître les conséquences, et ça peut être une barrière. Le chapitre 8, c'est l'activité de la sagesse. Elle intervient dans plusieurs aspects de notre vie. De nouveau, la sagesse crie. Elle s'adresse à tout le monde. Et puis après, les versets 6 à 13 nous montrent que la sagesse et la compagne va avec la droiture. Va avec la moralité. Elle va avec la crainte de l'Éternel. Et aussi, plus loin, la sagesse est encore la clé du succès.
Verset
14, c'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Et le succès, c'est pas ça. Ce n'est pas être connu, être reconnu, s'enrichir.
Mais s'il
y a une situation difficile,
et qu'il faut
prendre des décisions difficiles à prendre,
eh
bien la sagesse nous permettra de prendre la bonne décision.
Et
si dans cette situation difficile, tout s'apaise,
ce qu'on
peut appeler un succès. Et puis la sagesse est mentionnée en rapport avec la création. Les versets 22 à 31, on voit que la sagesse présidait au moment de la création. C'est le principe même de la création. Le verset
27,
on peut lire les versets 27 à 31.
Bala yuvensi wama kumia vino mana mwese kete tonu kujua wama kumia sotone umwe musha pite wa mwanda mukulu.
Voici la sagesse était là. Tout ce que Dieu a fait, a créé, a été fait avec sagesse.
Et puis
les derniers versets,
32 à 36,
dit que la sagesse est la seule chose nécessaire à la vie.
Le verset 35
dit, en effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Trouver la vie veut dire il a obtenu la faveur de l'Éternel. Je terminerai rapidement avec le chapitre
9.
C'est un chapitre très intéressant. Il est divisé en trois chapitres de six versets.
Le chapitre où dit nous consolons là.
Donc il y a trois paragraphes de six versets.
Et
le premier paragraphe et le troisième paragraphe décrivent respectivement les fesses d'un rival de la sagesse. Et de la folie. Qu'est-ce que ça veut dire? La sagesse est comme personnifiée. Elle a construit une belle maison avec des belles colonnes. Elle a établi des tables chargées avec d'excellents mets. On peut tout voir, tout est clair. Et puis la sagesse invite, elle envoie des personnes, mais venez manger à mon
restaurant.
Et puis, de l'autre côté, il y a une autre, enfin, c'est pas un palais, c'est une sorte de tente, une maison, on voit pas très bien ce que c'est.
Et
la folie, cette dame folie,
elle
est assise à l'extérieur de la maison.
Elle
invite aussi tout le monde à venir
chez eux.
Mais on ne voit pas ce qu'il y a dans la maison.
Elle dit,
mais l'eau qui est volée, elle est bonne.
Ah, bon,
le pain mangé en cachette, c'est bon.
Ah, bien,
et voilà, les passants doivent faire un choix.
akubo kubenda bapita bikeni muntu numuntu antugende kipanga kipa.
Mais c'est clair que celui qui choisit la maison de la sagesse. Tout est clair, tout est, on peut voir tout, c'est transparent. On sait à quoi elle s'engage. Et la sagesse dit, mais abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. Tandis qu'il y a toujours un mystère quand on voit cette folie. On
ne
voit pas ce qui nous attend. C'est mystérieux. C'est peut-être ce qui attire des
fois.
Et c'est là que dit que le chapitre se termine sur ces versets. Celui qui va vers la folie ne sait pas que là se trouvent les défunts, les morts. Et que ceux qu'elle a invités sont dans le séjour des morts. C'est un appel pour chacun de nous à choisir entre la sagesse
ou
se laisser tenter par la folie. Et les six versets du milieu s'occupent du moqueur. Alors, je vais lire simplement un verset dans le Nouveau Testament. Sur le moqueur. Si je le trouve. C'est instructif comment l'apôtre Pierre en parle du moqueur.
Deux Pierre 3, verset 3 à 6.
Basiki ne valere il tempo tuo, tena un giorno cagliato me, bamba di me, non è guardiva giani, infatti, vuole guardare, lascia vada il bamba, ma tu, ma non so adiacare, non mi, uomo a casino, e ci vanno di lui, sabo, ma poco da dire, basi, un po' muoio,
Alors, je vais relever trois caractéristiques des moqueurs. Les moqueurs sont des... C'est une figure aussi des proverbes.
Hein.
Ce sont des hommes qui vivent en suivant leurs propres désirs. Ils font ce qu'ils veulent, leur propre volonté. Ils font exprès d'ignorer, ils veulent ignorer.
Ils font exprès d'ignorer.
Ils savent peut-être ce qui s'est passé, mais on n'en tient pas
compte.
Et Pierre nous dit aussi, ce sont des personnes qui oublient volontairement.
Il
y a des choses qui sont évidentes. Mais le moqueur va dire, non, non, ça ne s'est pas passé. Et je vais terminer là. Et à partir de demain, on pourra prendre une section sur les proverbes.
Merci.
Merci.